Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle console, PC, mobile, tout ce qui est important à retenir dans le monde merveilleux du gaming. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de God of War et on va être assez long je pense sur le jeu parce que on est parmi les seuls dans la presse mondiale à avoir quand même pas mal détesté God of War, qui est un jeu assez médiocre. Non, je peux pas rester sérieux. Pour m'aider à chanter les louanges de God of War aujourd'hui, on a une équipe communautaire. J'ai d'un côté Johan et de l'autre côté Thomas, qui font partie du Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech et avec qui on a souvent des conversations animées sur la nature et l'intérêt du jeu vidéo. Comment allez-vous, messieurs ?
Ça va super bien.
Les deux en même temps, hein, n'hésitez
voilà,
pas.
On va essayer de dire en même temps. Non, c'est super sympa voilà, de venir parler de jeux vidéo. Donc moi, je suis très très content d'être là.
Très et bien. Pareil. Thomas ouais, pareil, est content aussi. Content.
C'est ma première fois, contrairement à Johan ici. Je suis vraiment très content.
Très bien. Bah écoute, merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir dans l'émission. Et donc, on va commencer à parler de God of War. Petit résumé rapide pour ceux qui auraient vécu dans une cave pendant ces dernières années. D'ailleurs. Je voulais vous en parler avant de lancer l'émission. J'ai une copie de God of War à faire gagner parce que ma PlayStation Pro est arrivée avec une copie, avec un jeu God of War. Je ne savais pas et je l'avais acheté déjà avant de toute façon. Donc je voudrais faire gagner cette copie je vais organiser un truc avec un hashtag spécial qu'il faudra répéter, qu'on va dire en fin de discussion de God of War, et je vais vous laisser tous les deux choisir le hashtag qu'il faudra, le mot secret qu'il faudra dire pour gagner cette copie. Donc,
tellement de responsabilités.
Oui, c'est lourd comme responsabilité. Ah ouais. Donc, écoutez bien, et puis il faudra répondre au tweet spécifique où je parlerai de ce concours, ou alors sur Facebook, on fera les deux, je pense. Ce que je voulais rappeler, c'est ce que c'est que God of War, pour ceux qui auraient vécu dans une cave ces dernières années. God of War, bien sûr, série phare de Sony, avec la PlayStation, de nombreux épisodes, trois ou quatre épisodes principaux. Et cet épisode qui est sorti donc il y a quelques jours, épisode PlayStation 4, qui est une réimagination de la série, qui est à la fois un reboot et une continuation, comme on l'entend souvent, et qui est surtout encensé par la critique depuis un petit peu avant sa sortie. Comme on l'avait mentionné, ils ont généralement, quand un éditeur fournit des copies à la presse avant la sortie du jeu, plus c'est longtemps avant la sortie du jeu, plus ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur jeu. Et en l'occurrence, il y avait des reviews qui ont commencé à arriver une semaine avant la sortie du jeu, quasiment. Donc, on se doutait que le jeu allait être de relativement bonne qualité. Les reviews ont encensé le jeu, comme je le disais. On a énormément de note parfaite, même les critiques qui sont les plus sévères avec ce jeu disent qu'il est juste excellent, entre guillemets. Donc on avait vraiment des attentes assez élevées pour ceux d'entre nous qui n'y avaient pas joué avant la sortie. Et donc je crois qu'aucun d'entre nous n'y avait joué avant la sortie d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on n'est plutôt pas déçu par le résultat, ce qui est presque étonnant étant donné les attentes qu'on avait. Je vais en parler un petit peu plus, mais avant, vraiment, en quelques mots, ce que vous pensez du jeu dans son ensemble. Johan, toi, t'es le seul à l'avoir fini. Entre parenthèses, on va pas du tout faire de spoiler. Donc, tout ce qui pourrait être considéré, même de loin, comme un spoiler, on va éviter. Mais oui, donc toi, t'es le seul à l'avoir fini complètement parmi nous. Moi, j'ai joué, je sais pas, peut-être 15-20 heures. Thomas, je sais pas combien de temps t'as joué.
À peu près dans ces eaux-là.
Dans ces eaux-là. En quelques mots, et puis on va s'étendre sur le sujet, Johan, qu'est-ce que tu en penses du jeu ?
Alors moi, j'ai failli être déçu parce que, à cause en fait de la réception médiatique et des notes parfaites de partout, ça a failli un petit peu me gonfler de hype au-delà du raisonnable, on va dire. Heureusement, j'ai pu avoir le jeu très très tôt après les reviews et du coup, ça a un peu ça a permis d'atténuer ça assez rapidement. Franche réussite, ça, pour moi, il y a pas vraiment de débat sur ça. Et par contre, il y a quelques petits points sur lesquels je suis un peu plus agacé, on y reviendra un peu plus tard.
D'accord, donc franche réussite. J'attendais à plus de compliments, mais ok, on va plonger dans les détails. Thomas, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses en quelques mots ?
Pour l'instant, c'est une grosse claque, ou alors c'est un enchaînement de moyennes claques. Je sais pas le dire vraiment, mettre les bons mots. C'est une très bonne surprise aussi. Je passe du temps sur un jeu. Comment dire ? Ce genre de jeu ne m'emballe pas de manière générale, mais là, avec celui-là,
ça fonctionne, oui.
Ouais, là c'est ça.
J'aime bien la description, enfin l'hésitation que tu as eue de « c'est une grosse claque » à « c'est un enchaînement de moyennes claques ». Parce que c'est vrai que, je dirais, les deux, trois premières heures, c'est juste, entre guillemets, très bon. Et puis, au fur et à mesure qu'on continue à jouer, en tout cas, c'était mon expérience, on continue à être agréablement surpris à chaque étape du jeu. Il n'y a même pas vraiment d'étape, en fait, mais à chaque moment, on continue à apprécier de plus en plus ce jeu. Et moi, j'ai l'impression que je m'attendais un petit peu à un jeu qui est quelque chose de vraiment frappant, quelque chose de vraiment révolutionnaire. On imaginait quelque chose qui soit comparable à, par exemple, Legend of Zelda, le Breath of the Wild de l'année dernière. C'était vraiment quelque chose de nouveau en termes de façon de concevoir ce type de jeu. Dans God of War, il n'y a pas un choc aussi grand. Et du coup, au début, on a tendance à se dire « Ah ouais, c'est... bon, c'est sympa, c'est pas mal, c'est éblouissant de beauté. » Et on va peut-être revenir sur les différents éléments du jeu qui font qu'il est marquant. Mais il n'y a rien qui soit vraiment frappant ou choquant de différent avec les jeux vidéo en général. Par contre, là où je comprends les notes parfaites et les gens qui se pâment devant ce jeu, c'est que j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'il entreprend, ce jeu, il le réussit pas à 20 sur 10, c'est pas un truc qui nous fait tomber par terre d'émerveillement, mais déjà à 12 sur 10. Et il y a plein de jeux qui sont hyper bien réussis dans un domaine, qui sont genre au-delà de ce qu'on peut attendre d'un jeu vidéo dans un domaine. Mais j'ai l'impression vraiment que God of War, il est au-delà de ce qu'on peut attendre dans un jeu vidéo de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on a un élément qui est exceptionnel de réussite, mais il est comme ça dans tout ce qu'il fait. Il est comme ça dans le jeu d'acteur, il est comme ça dans l'animation, il est comme ça dans les graphismes qui sont, comme je le disais, éblouissants. Le gameplay, on découvre petit à petit qu'il est vraiment d'une profondeur incroyable et d'un agrément de jeu assez fou. La vaste... l'étendue du jeu est hyper impressionnante. Et puis surtout... moi, vous allez me dire si vous avez cette même impression. Ça fait donc une quinzaine, vingtaine d'heures que j'y joue et je n'ai à aucun moment pas eu envie d'y jouer. C'est d'une consistance, d'une constance assez surprenante. C'est-à-dire que dans tous les jeux de ce type, les jeux solo qui sont longs, on a forcément des moments où ça fait un petit peu remplissage, un minimum, et on se dit, ah bon, là, ok, je vais continuer parce qu'il y a telle suite de choses que je dois faire que, bon, je vais le faire, mais c'est un petit peu la routine, quoi. Dans God of War, même s'il y a des trucs qui deviennent répétitifs dans le sens où on répète certaines choses, moi, j'ai eu à aucun moment l'impression que c'était du remplissage. Et à tout, dans tout ce que j'ai fait, et il y a plein de choses à faire, dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours amusé. Toutes les énigmes sont assez motivantes et assez simples pour ne pas être frustrantes. En fait, pour résumer la chose, et puis je vais vous donner la parole, God of War est un jeu qui fait tout parfaitement et qui a le bon équilibre sur tout. C'est jamais trop difficile ou trop facile, ou trop long ou trop court, ou c'est toujours pile là où il faut, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous parle comme description, peut-être, Johan ?
Moi, je vais laisser parler Thomas, parce que d'accord. Moi, j'ai des points plutôt négatifs sur certains points que tu as évoqués.
D'accord, ok. Bon, bah vas-y, Thomas, alors.
Ouais, tu décris assez bien ma pensée, même si j'irais peut-être pas dans autant de superlatifs. Je dirais pas que tout est parfait. Moi, par exemple, je sais que les premières heures du jeu, je sais plus le mot exact que t'as dit, juste très bon, c'est ça ?
Ouais, c'est ce que je dis, j'ai juste excellent ou un truc comme ça.
Ouais, voilà. Je dirais, ouais, au mieux, juste très bon pour ma part, par exemple. C'est les premiers monstres, ouais, pareil, hein, je vais rester spoiler free. Ça, mais les premiers monstres, par exemple, je trouve que c'était des gros sacs à PV et qui avaient aucune difficulté. Tu les tapes très longtemps. Je trouvais ça un peu long, l'histoire, je comprenais pas trop. Mais par contre, c'est vrai que c'était très beau et le rythme, il se dessine déjà où t'as des combats, tu grimpes un peu les murs, t'as de la narration, ça s'enchaîne très bien. Et comme tu disais, c'est pas trop long, c'est pas trop court. T'as pas le temps de t'ennuyer d'un truc que tu passes à autre chose, c'est bien fait.
Et j'irais même plus loin, moi je trouve que tous les trucs qu'on fait, c'est vrai que le début, j'ai entendu cette critique ailleurs aussi, le début est un petit peu long, et j'ai été surpris parce que moi j'ai pas trouvé ça ennuyeux le début, mais c'est peut-être parce que les jeux narratifs me parlent beaucoup, mais... Pardon.
Je dirais pas que c'était long ou ennuyeux en fait. C'est juste que ça m'avait. J'étais pas transporté dans le jeu. Ça m'avait pas emballé en fait.
D'accord.
Mais ça commence vraiment pour moi à un moment. Alors c'est très non spoiler. On rentre dans une certaine montagne comme ça. Vous allez comprendre hein, si je dis ça. Et ceux qui auront joué comprendront aussi. On rentre dans une montagne et à partir de là, je suis sorti des décors que je trouvais assez génériques. Très beau, graphiquement très beau. Alors moi, je joue sur Pro et pour l'instant, j'ai joué avec le mode résolution, donc celui qui affiche le plus de détails possible, malgré que je ne sois pas en 4K. Mais bon, c'était très beau, mais jusque-là, les décors, c'était encore très générique. C'est juste de la forêt, juste tout ça. Mais à partir de ce certain passage, j'ai trouvé une... qui était vraiment sympa, quoi. Comment dire, j'avais l'impression d'être dans un autre univers. Voilà, c'est un peu comme la Moria, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux. La Moria, de mémoire, dans le film, c'était vraiment le premier passage du film. Il dit, waouh, la vache, c'est vraiment splendide et tout ça. Et c'est un peu cette sensation que j'ai eue quand je suis arrivé à ce moment-là. Et pareil, que tous les monstres qui arrivaient, qui s'enchaînaient comme il fallait, Et cette ascension d'adrénaline que tu as sur certains passages du jeu, à partir de ce moment-là et jusqu'à là où j'en suis, et ça s'est à peu près jamais arrêté. Quoi. C'est à partir de là, c'est vraiment génial. Donc, c'est ça. Je dirais pas que le début est trop long, je dirais qu'il est en dessous du reste, mais c'est toujours très bien.
Mais qu'il est juste bon, ouais, d'accord.
Alors, du coup, Thomas a un peu mis le doigt sur le point. Moi, effectivement, j'ai trouvé le début vraiment trop, trop lent. Alors ça commence plutôt bien et c'est un peu caractéristique des God of War. On commence sur un moment assez exceptionnel et puis après le gameplay se met en place et les différentes briques sont présentées, donc combat, énigmes, etc. Et avec un scénario qui n'est pas pleinement dévoilé, c'est-à-dire qu'on a on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est poursuivi ou pas. Enfin, c'est assez, assez brumeux, et ce qui fait que j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Et vraiment, sur la la première, on va dire le premier tiers, c'est peut-être un peu large, mais à la louche, je me suis littéralement endormi devant le jeu.
À ce point-là ?
Ouais, vraiment, j'ai eu du mal à rentrer dedans, je jouais un petit peu mécaniquement, et effectivement, je m'apprêtais à être assez mitigé sur le jeu, et puis il y a eu le moment où ça a cliqué, et où les combats prennent plus de relief parce qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on va gagner en expérience, on va pouvoir placer des points dans nos armes, dans nos compétences, etc. Ce qui fait que le gameplay va beaucoup se diversifier. Système de combat d'ailleurs que je trouve vraiment vraiment super intéressant, avec en fait un système avec un double système. Donc en fait, quand on tape, on va enlever des points de vie à nos adversaires, mais on va pouvoir aussi monter une jauge d'étourdissement si on veut. Et quand la jauge d'étourdissement est pleine, du coup l'ennemi est paralysé et on arrive près de lui pour appuyer sur une touche et ça déclenche
une finisher,
exécution,
quoi,
exactement de la même manière que dans Doom, avec un peu cet effet brutal, on arrache des tripes, enfin c'est vraiment super satisfaisant à déclencher. Et du coup, on va comprendre assez vite qu'il y a certains coups, certaines armes, certaines compétences qui vont plus étourdir que enlever des points de vie ou ce genre de choses là.
Ouais, vas-y, finis et puis j'aurai des choses à ajouter.
Non, mais
aussi,
j'ai fini quoi.
C'est vrai que il y a quand même un système de jeu qui est assez complexe et assez compliqué à expliquer. À transmettre aux joueurs, et c'est vrai qu'au début on a vraiment genre deux coups et ça se répète, peut-être ça rend les combats peut-être un petit peu répétitifs, mais il y a tellement de choses, le jeu est tellement riche et complexe en fait, alors qu'au début on pense pas du tout, parce qu'il y a bien sûr tout le système de gameplay de combat direct, c'est-à-dire quelles armes on va utiliser pour faire quoi. Il y a aussi, dans les équipements, il va y avoir les armes et les armures. Et puis, dans les armes et les armures, on va pouvoir rajouter des enchantements, des talismans, des pommeaux, des gemmes, etc. Enfin, et chacun va avoir des implications sur la manière dont le jeu fonctionne. Et il y a en plus de ça un arbre de talent en quelque sorte qu'on va pouvoir remplir, qui va rajouter des coups à chaque fois. Et en plus de ça, il y a dans le jeu, dans le gameplay lui-même, tous ces différents éléments, c'est-à-dire qu'on peut attaquer les ennemis avec notre hache, dont on doit reparler dans un instant parce que le sentiment de la hache est invraisemblable. On peut, quand on a balancé la hache, on peut attaquer avec nos poings, ou alors quand on a rangé la hache. On a notre fils qui fait office de compagnon, qui peut attaquer aussi, et on le contrôle avec un bouton dédié. On a tous ces systèmes qui viennent s'embriquer et se mettre en place pour créer un système de combat intéressant. Et tout ça, ça doit être introduit petit à petit, quoi. Moi, je pense que peut-être que vous, en très grand connaisseur du jeu vidéo, ça vous a paru un petit peu lent et ça a mis un moment à se mettre en place. Je pense que c'était nécessaire de présenter les choses assez lentement pour que les gens normaux, entre guillemets, puissent s'y accoutumer, quoi.
Et quand je dis que c'est lent sur ces introductions-là, sans commune mesure avec ce qu'on sait de certains jeux japonais où les tutos se déroulent sur 15, 20, 30 heures. On n'en est vraiment pas là. Donc, c'est vraiment, moi, c'est un problème de rythme dans la manière dont l'histoire est racontée. Et d'accord. En plus, que le gameplay est plus faible que ce qu'il sera après. C'est tous ces éléments-là mis ensemble qui font que j'étais vraiment un peu perdu dans mes pensées pendant que je jouais.
Ouais. Mais moi, le truc qui m'a accroché tout de suite, en fait, c'est cette hache, la hache Léviathan, la hache du Léviathan, qui est possiblement l'une des armes au meilleur feeling de l'histoire du jeu vidéo. Elle est. Je passe au début, et c'est peut-être pour ça que moi, ça m'a pas gêné la lenteur de la mise en place. Que, encore une fois, moi, j'ai pas trouvé ça lent. Hein. Vous êtes tous les deux d'accord sur ce point, et j'ai entendu d'autres personnes le dire. Donc, clairement, il y a des gens qui ont ce ressenti. Moi, je l'ai pas eu du tout, mais c'est peut-être parce que j'ai passé les trois quarts des combats à juste balancer ma hache et la rappeler. Et ça marche un petit peu comme le marteau de Thor dans les Avengers. Et ce sentiment de qu'ils réussissent à transmettre avec les animations, la manière dont l'écran tremble, le tremblement de la vibration de la manette, quand on rappelle la hache, mais c'est Le petit truc. Enfin, vous êtes d'accord sur ce point,
Ouais.
j'imagine.
Moi, ça m'a rappelé. En fait, j'ai passé, je pense, 20 minutes à juste lancer ma hache et la
Ouais,
regarder
pareil.
revenir en boucle. Et ça m'a rappelé exactement ce que je faisais dans Wind Waker, donc Zelda The Wind Waker sur GameCube, la première fois que j'ai allumé le jeu et où j'étais sidéré par les graphismes et où j'ai passé toute une journée à juste lancer des bombes dans l'eau pour voir les effets de feedback, l'animation, de la fumée, de le machin, etc. Ben là, c'était pareil. Je regardais ma hache se planter dans l'arbre, se planter dans la roche, se planter dans le bois et je la faisais revenir. J'essayais de faire des chemins pour la faire revenir, essayer de lui mettre des obstacles pour voir un peu l'animation, comment elle se débrouillait. T'as toujours ce petit bruit. Même si ça triche l'animation, hein, des fois il traverse un peu les choses,
Bien
mais
sûr, oui.
t'as un petit bruit qui te fait comprendre que la hache est en train de se cogner sur son retour. Et en plus, ça peut être utilisé en combat, c'est-à-dire certains ennemis qui ont un bouclier, tu vas pouvoir lancer la hache derrière l'ennemi, la faire revenir, et en revenant, elle va heurter l'ennemi dans son dos. Enfin, cet élément-là est vraiment pour moi la grosse trouvaille du jeu, et ça procure vraiment une satisfaction du début à la fin.
Bah,
C'est assez.
Réussir à remplacer, à faire une arme qui soit aussi iconique que c'était les chaînes de l'Olympe, c'est ça? The Chains of
C'est
Olympus,
ça,
je crois, des anciens
les
God
chaînes.
of War. Ouais. C'est, qui était elle aussi un élément des anciens jeux qui était complètement synonyme de l'identité de Kratos. Réussir à refaire une arme, à designer au niveau du gameplay une arme qui soit aussi satisfaisante, c'était pas gagné, quoi. Mais Thomas, je t'ai interrompu?
Non, pas vraiment, mais du coup, enfin, j'allais rebondir là-dessus. Tu parlais des anciens jeux. Bon, juste pour dire, totalement d'accord avec vous pour tout ce qui est de la hache. C'est vraiment fabuleux de se
C'est fou
battre
qu'on
avec les
passe 5 minutes
sensations.
à parler juste d'une
Ouais,
arme, mais c'est à ce
oui,
point
mais c'est
qu'elle
ça.
est.
Et depuis tout à l'heure, on a quasi. Tu l'as mentionné une fois, mais on n'a même pas parlé du petit
Ouais.
qui est central dans le jeu, quoi. Bon, on y reviendra de toute façon. Et juste sur les combats, même au point, parce que Kratos quand il a pas sa hache pour X raison, parce que ça arrive parfois, il peut se battre au point et c'est tout aussi violent
Et
et presque,
satisfaisant, oui.
ouais, c'est ça, ouais, c'était le mot. Et non, voilà, sur ça c'était vraiment très bien, mais je reviens, ouais, vas-y, pardon, fini. Vas-y.
Non, je voulais juste dire qu'au final, le gameplay des combats qui sont omniprésents se compose et se devient un composite de combat à la hache, on balance la hache, on part avec le bouclier, on donne quelques coups de poing, on fait immobiliser l'ennemi par notre fils, on récupère la hache, on met un énorme coup spécial qui va utiliser une rune, enfin, ça devient une sorte de balai de
Ouais.
gameplay qui, une fois qu'on commence à le maîtriser, et je commence à peine à arriver à un niveau où je maîtrise vaguement, est un plaisir absolument permanent. Et c'est pour ça que le
Et
jeu ne devient pas lassant, quoi.
c'est d'autant plus vrai plus loin dans les talents, à partir du moment où tu as des enchaînements qui incluent le fait que tu aies lancé ta hache. Donc en fait, tu as des enchaînements
Ouais.
qui vont se débloquer, où tu lances ta hache, tu donnes des coups de poing, tu fais un saut, la hache revient automatiquement dans ta main et tu mets le dernier coup. Enfin, ils ont vraiment bossé. Toutes ces interactions
Le
avec cette
système de
hache et le fait
combat,
qu'elle
oui.
puisse se lancer, etc., qu'elle soit un petit peu auto-guidée, enfin, c'est voilà. Vraiment la grosse réussite,
Ouais.
clairement, niveau combat. Et
Thomas?
je voulais rebondir, donc, comme je disais tout à l'heure, tu parlais des anciens jeux, alors je voudrais faire vraiment un petit point là-dessus pour ceux qui s'intéresseraient ou qui se poseraient la question. Moi, God of War, avant les trois premiers et les petits trucs qu'il y avait autour, j'y ai pas joué, ou alors j'y ai joué tout au plus 10 minutes, ça m'avait J'avais pas accroché à l'époque, c'était pas le moment, ou je sais pas, mais bon, j'y avais pas joué et j'ai commencé celui-là, donc en connaissant rien de l'histoire, si ce n'est que Kratos c'est un bourrin, et c'est vraiment, hein, j'en étais là, c'était un bourrin et il se tapait en Grèce, voilà, c'est tout.
Je pense
Et
que ouais, pardon.
ça, pour moi, l'impact est totalement mineur. Enfin, on peut totalement commencer ce jeu en ne connaissant rien de l'histoire de God of War, et on apprend en fait avec le jeu ce qui s'est passé avant, où on le devine, mais
Ouais.
on comprend aussi que
Ouais.
c'était pas nécessaire de le savoir. Enfin, ça
Par
apporte vraiment
contre,
rien. Oui.
moi je pense que dans le cheminement du personnage de Kratos et de sa relation avec son fils, c'est quand même intéressant de de s'être renseigné, on va dire, sur ce qui s'est passé dans les événements précédents. Enfin, moi, j'ai juste relu un petit peu Wikipédia pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Et il faut vraiment savoir que Kratos, c'était vraiment, enfin, quand tu dis une brutasse, enfin,
oui, c'est rien de le dire.
C'est rien de le dire, et il a tué vraiment, et tu, enfin, tu as tué, hein, en tant que joueur, des gens
Tu as décimé le.
Ouais, mais tout ça tu le devines, quoi. Tu le devines en fait dans l'histoire via des dialogues où Kratos, tu sens qu'il cache des choses à son fils, et toi t'es un peu plus intelligent qu'un enfant, je sais même pas quel âge il a. Non, mais tu comprends en fait, tu comprends ce qui se passe derrière.
Et justement,
pour le coup, moi je me suis renseigné sur l'histoire en fait de God of War en plein milieu, vers une dizaine d'heures de jeu. Je me dis, oh, tiens, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avant. Je me suis retapé tout God of War 1, 2, 3. Et du coup, maintenant, je sais, et du coup, ça ne m'apporte pas plus. Si ce n'est que je peux choper quelques références, quelques trucs de dialogue. Il y a aussi, du fan service.
Je crois qu'il y a beaucoup, effectivement, de choses que tu comprends si tu as fait les jeux d'avant. Enfin, quelques trucs, et puis les références, et puis l'ambiance, et puis le passif de Kratos, mais c'est absolument pas nécessaire pour ce jeu-là. C'est pour ça que c'est à moitié un reboot, à moitié une suite. Et justement, parlons de l'histoire. L'histoire, bon, encore une fois, sans spoiler, mais la relation plutôt entre Kratos et son fils, qui, à vrai dire, moi, je m'attendais presque à une sorte de The Last of Us, The Last of Us-like, et avec une relation qui serait construite de manière hyper émouvante. Et en fait, c'est pas exactement ça, parce que le fait est que Kratos est une personne tellement froide et insensibilisée, en fait, qu'il est un père horrible. C'est un père vraiment d'une froideur et d'une... je ne vais pas dire violence, parce qu'il tape, il est violent psychologiquement, quoi. C'est un Sparte, et il est spartiate dans son éducation. Tout ce qu'il dit à son fils pendant les cinq premières heures de jeu, c'est « Boy, do this. Boy, come here. » Comment ils ont traduit d'ailleurs « boy » en français, je suis...
Atreus. Il donne le nom, en fait.
Il donne le nom.
C'est un peu gâché.
Alors, voilà, exactement. C'est un gros, gros problème de traduction, et c'est pour ça aussi que je joue toujours en version originale quand je le peux, même avec des sous-titres, parce que... en l'occurrence, le simple fait qu'il s'adresse à son fils en disant « boy », qui est un petit peu garçon, ça construit leur relation d'une manière complètement différente de s'il l'appelle Atreus. Alors même en version anglaise, il dit Atreus de temps en temps, mais peut-être une fois sur dix, quoi.
Mais il le dit à des moments où, justement, ça signifie quelque chose qui donne le nom, quoi.
C'est ça, c'est quand c'est grave ou quand c'est très important, là.
Ou urgent, oui.
C'est ça.
Et la manière dont l'acteur transmet cette intonation de boy, c'est hyper, ça fait passer tellement de choses, ça fait passer en fait non seulement la froideur de Kratos en tant que père, mais en plus son incapacité à être le père de cet enfant qu'il ne connaît pas vraiment, et tu sens qu'il a même pas vraiment envie de s'occuper du fils, et il le fait parce que les circonstances font qu'il est obligé. Et ça, c'est... Donc il y a ça, d'un côté, ce Kratos père, qui est en fait descendant de God of War, les anciens du nom, et j'avais l'impression que Atreus, son fils, serait... ennuyeux, enfin, serait un petit con, en fait, dans les quelques trailers que j'avais vus. Et en fait, oui, c'est un petit con, mais ça marche vachement bien, parce qu'il fait une sorte de... C'est juste un enfant, et il est, un petit peu inconscient et ennuyeux comme un enfant, parce qu'il va poser plein de questions, parce qu'il court partout, parce qu'il est... Et en plus, il crée un miroir absolument parfait pour son père, c'est-à-dire qu'il reflète à son père ce que son père est par les yeux des joueurs d'aujourd'hui, en fait. Il y a plein de remarques qu'il lui fait où on se dit, nous, en tant que joueurs, c'est presque un cassage du quatrième mur qui est pas assez violent pour que ça nous sorte du jeu. Et je trouve ça hyper habile, quoi. Il y a plein de remarques où il dit... et on a, par exemple, des éléments de gameplay, parce qu'il y a plein de puzzles et de trucs comme ça à résoudre, et il faut trimballer un truc. Et il va lui dire à son père, mais tu vas trimballer ce truc partout, comme ça, avec toi? Et son père lui répond, bah oui, s'il faut, je le ferai, avec sa voix... Enfin, bien sûr, en français, en anglais, c'est beaucoup plus sec, c'est « if I must ». Et voilà, et c'est Kratos qui dit, bah ok, il faut pour continuer dans le jeu, c'est ce qu'il faut faire. Et en même temps, on a le regard des joueurs qui passent par Atreus en disant, ouais, enfin, t'as quand même un peu l'air d'un con à trimballer ton truc d'un bout à l'autre de la carte. Enfin, je trouve qu'au final, même cet élément est hyper réussi.
Sur le sujet de la relation Kratos et son fils, moi, je suis vraiment pas convaincu du tout. Pour moi, c'est vraiment un des points... qui m'a un peu laissé de marbre.
Bon, Thomas, sort de cette émission, ça suffit maintenant. Ah, c'est Johan, pardon.
Johan,
sort de cette émission.
J'ai été impliqué dans leur relation. J'ai un peu du mal à comprendre, en fait, quel est leur passif avant le jeu, en fait. Est-ce qu'ils se connaissaient avant?
Kratos n'était jamais là, c'est
comment
clair.
Comment est-ce que la mère a réussi à tomber amoureux de Kratos? comment se passait leur quotidien de famille? On a vraiment l'impression qu'il a ramassé le gamin sur le bord de la route au début du jeu, et ça y est, ça démarre, quoi.
Je suis d'accord, c'est en ce sens que c'est pas du tout comme The Last of Us, où il n'y a pas d'intimité qui se crée de la même manière, quoi.
Pour moi, c'est un peu pareil, dans le sens où Joël va récupérer une gamine à un moment donné. Lui, Joël, à ce moment du jeu, il est selfish, il ne peut pas aider les gens, c'est chacun pour soi, c'est la survie, il a un côté Kratos dans ce sens-là. Et pourtant, il va se passer des choses dans leur aventure, dans les dangers qu'ils vont rencontrer, qui font qu'ils vont vraiment se trouver l'un l'autre et développer une relation père-fille. Et c'est un peu aussi de ce qu'on retrouve dans Logan récemment au cinéma. Et là, pour le coup, enfin moi, j'ai vraiment à aucun moment, j'ai jamais rien ressenti pour eux. J'ai pas senti de danger sur l'un ou l'autre. J'ai vraiment pas été impliqué dans cette partie-là de l'histoire. Il n'y a pas que ça, il y a quelque chose de plus grand qui entoure, on va dire, ce fil rouge de la relation père-fils, mais cette partie-là m'a pas du tout touché.
Mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est pas... je crois pas que ça soit ce qu'ils essayent de faire. Il n'y a pas justement... alors, j'en suis qu'à la moitié du jeu, mais et encore une fois, sans spoiler, il n'y a pas cette émotion comparable à ce qu'on peut avoir justement dans un film comme Logan ou dans un jeu comme The Last of Us. Parce que Kratos, il a pas d'émotion, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement froid, où ses émotions sont tellement enfouies par tout ce qu'il a vécu avant au fond de lui que c'est presque une statue grecque, Kratos. Et du coup, c'est comment le gamin deal avec ce père qui n'est pas vraiment un père, qui est juste une sorte de guerrier qui massacre tout, quoi.
Je comprends bien, mais le simple fait qu'il soit tombé amoureux à nouveau, puis qu'il a refondé une famille, il y a quand même quelque chose qui
s'est passé. On ne sait pas s'il est tombé. Mais tu vois, on va pas partir dans les spoilers, effectivement. Mais
en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est un personnage caricatural, un peu à l'extrême, et ils essayent de briser, on va dire, la carapace en narration pour essayer de montrer que quand même, au fin fond du fond, il y a quelque chose par des petites séquences cinématiques où on voit qu'il essaye de d'interagir, mais finalement il reste un homme, un vrai, et
il le fait pas,
plus loin. Voilà. Je trouve ça un petit peu faible, en fait. Je trouve pas d'accord. Ça inintéressant dans le propos. Par contre, ouais, je pense que la réalisation n'a pas su m'amener là où elle aurait voulu m'amener.
D'accord.
Bah, moi, c'est un peu l'inverse, en fait. L'inverse presque de vous deux, j'avais très peur que ça soit comme du Last of Us. Je voulais pas, moi, d'une relation presque papa gâteau. C'est évidemment, de la part de Kratos, je ne m'attendais pas à ça, mais je voulais pas que ça s'en rapproche même un petit peu. Et au tout début de cette aventure, donc on a, comme tu disais, un Kratos extrêmement froid, et c'est un mur incroyable. Et de toute façon, je pourrais pas donner un avis complet là-dessus sans partir sur du spoiler, donc je pourrais pas tout dire. Mais moi, je trouve que l'écriture de Kratos et d'Atreus donc leur dialogue entre eux, finalement, moi, je la trouve vraiment bien. Pour moi,
Ah, je suis d'accord, oui.
il y a un sens à ce que je sais pas exactement où t'en es, Patrick, mais moi, j'en suis arrivé à un moment où pour
Ne
moi,
dis rien, ne dis rien.
non, je dis rien, mais pour tout ce qui se passe avant dans la froideur de Kratos, c'est pas pour rien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète dans l'histoire. Et du coup, ça m'a un peu réconcilié justement avec tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas très. En plus, c'est très répétitif. Il appelle tout le temps boy toutes les 3 secondes. Il est tout le temps comme ça. Mais au final, ça se construit dans l'histoire. Et au bout d'un moment, tu dis OK, d'accord. Je comprends tout ça. Je reviens. Et au final, je trouve que la relation entre tous les deux est aussi bien écrite que tous les autres PNJ, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y en a plein. Et ils sont fabuleux pour la plupart.
Oui. Ouais. Il faut que je le dise, il y a un PNJ dont je suis amoureux, c'est le nain un peu svelte qui est gerbophobe.
Ouais.
Je trouve vraiment à hurler de rire. Je passe mon temps à juste lui parler et essayer de voir si je déclenche des choses, parce que vraiment, c'est
un personnage. Ça aussi, et moi je suis d'accord avec toi Thomas sur la relation, je trouve qu'elle elle marche vachement bien, et c'est juste cette relation-là qui est comme ça, et oui, elle n'est pas... Bref, moi je trouve qu'elle fonctionne pour ce qu'elle est, et qu'elle est hyper subtile, justement, et qu'elle fonctionne très bien comme ça. Mais l'écriture, en général, pour tous les personnages, elle est hyper bonne, et tu parlais d'un personnage comique, il y a justement, encore une fois, un équilibre absolument parfait entre comédie, violence, émotion, un petit peu quand même si ce n'est pas le sujet principal du truc, mais les aspects comiques du jeu ne sont, j'ai trouvé, à aucun moment ne sont malvenus. À aucun moment, tu dis « Ah non, mais ça, qu'est-ce que ça vient faire dans ce jeu, dans cette ambiance dans ce... ?» Et autant Kratos est stoïque du début à la fin, autant ce qui se passe autour de lui peut être complètement loufoque, certains personnages peuvent être complètement loufoques, et ça fonctionne. Je veux dire, dans le contexte du jeu, j'ai du mal. Si on m'avait dit... dans le cahier des charges du jeu, il faut qu'il y ait telle et telle dose d'humour de ce type-là, j'aurais dit, mais enfin, c'est pas possible. Et pourtant, ils réussissent à le faire marcher. Ce qui, là encore, est à mon sens un tour de force, quoi. Sur le reste de l'histoire, on va pas trop en parler parce qu'on va pas faire de spoiler. Bon, c'est pas une histoire qui est invraisemblable, j'en suis pas encore à la fin, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été ébloui par le scénario, on va dire. L'écriture des personnages et des dialogues sont bonnes, mais le scénario, j'ai pas été émerveillé, on va dire.
Ce que je peux dire là, pour ceux qui seraient d'accord avec moi en ayant joué au début du jeu, je peux quand même rassurer sur le fait que la deuxième moitié est largement meilleure, et la fin, quand tu rentres sur les rails narratifs de la fin, je trouve ça vraiment très très bon, et on a vraiment envie que ça continue, quoi.
Très bien. Parlons un peu des graphismes. On en a parlé, enfin j'ai dit qu'ils étaient éblouissants. Tu as mentionné, Thomas, que tu étais sur PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro. Moi, j'en ai acheté une justement pour le jeu, pour pouvoir tester, et j'avoue que je suis un petit peu déçu, voire très déçu. Le mode résolution, j'ai énormément de mal à voir une différence avec le mode normal. Et le mode framerate, il augmente effectivement le framerate, et ça c'est pas mal, mais le mode résolution, sur une télé 1080p, hein, bien sûr. Mais malgré ça, donc pour moi, une PlayStation 4, si vous n'avez pas une télé 4K, et Johan pourra nous parler de la version 4K, mais la version non 4K, PlayStation 4 normale, aucun souci, c'est très très bien. Et d'une manière générale, le jeu, mais comme il est beau, c'est invraisemblable, tous les décors sont fous, la manière dont tout est fait à la main, à la main, on ne sait pas comment ils l'ont fait, mais chaque endroit du jeu, on a l'impression qu'ils ont passé des jours à peaufiner chaque petite branche, chacun à la main, et il y en a tellement, il y a tellement de zones différentes, et chacune est faite avec autant de soin. Enfin, je pense que il y a des jeux qui sont aussi beaux que God of War, je crois. Ils sont rares, mais il y en a, ou presque aussi beaux. Mais ils sont généralement pas aussi variés ou pas aussi détaillés, j'ai l'impression. c'est peut-être pas le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie, mais si c'est pas le cas, il en est vraiment pas très loin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Peut-être Thomas d'abord, et puis Johan, parle-nous de la 4K HDR après. Tu disais que t'appréciais les graphismes, Thomas, donc je pense que tu vas être d'accord, mais...
Ouais, carrément. Après, moi, j'ai pas joué à Uncharted 4. Je sais que ça, c'était aussi une référence dans le genre jeu qui te met une baffe graphique. J'y ai pas joué, donc pour l'instant, au moins sur ma PS4 et on va dire sur mes consoles hors PC, ça doit être le plus beau jeu que j'ai vu tourner. Quoi. C'est
mais fabuleux. Même par rapport à un jeu PC, bon, il est en 1080p, etc., mais je trouve que même par rapport à un jeu PC, il est au moins aussi beau que les plus beaux jeux PC, quoi. J'ai du mal à trouver un jeu qui soit aussi beau ou plus beau que ça.
Ouais, je joue pas. Dernièrement, ça fait longtemps que j'ai pas joué un gros AAA très très orienté graphisme. Donc même console, hein, de toute façon, c'était lui à peu près le dernier. Je saurais pas faire de grandes comparaisons là-dessus non plus.
D'accord. Pour être honnête. Bon. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que non seulement ouais, au niveau des graphismes, c'est-à-dire des détails et de l'intention artistique, quoi. Il y a des trucs qui sont éblouissants. Johan, la version 4K HDR, tu vas pas me dire que c'est plus moche, mais...
Bah, ça va être difficile de trouver de point de comparaison puisque j'ai pas mis une autre télé 1080 à côté pour comparer. Mais oui, voilà, je suis content d'avoir acheté ma télé 4K il y a pas longtemps. Je crois que c'est peut-être le premier jeu vraiment étalon visuel qui est sorti depuis. J'ai bien sûr essayé tout ce qui est Uncharted et bon, je suis un peu moins impressionné visuellement que ce que j'avais été impressionné pour Uncharted 4. Il faut dire, dans le sens où la caméra est quand même positionnée plus loin, tu peux plus facilement tourner autour de ton personnage et du coup ce que tu as à l'écran, tu as plus de choses à l'écran, on va dire, sur
dans Uncharted, tu veux dire. Ouais.
Voilà, tu as plus de choses à l'écran et surtout tu as un mode photo qui était juste phénoménal. Là, je trouve que ça manque un peu de mode photo, mais en même temps, quand j'ai essayé de me poser devant certains paysages, on voit quand même qu'au fond, c'est pas aussi nickel que ce qu'on avait pu voir sur d'autres jeux, mais bon, là, on se bat vraiment enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule de pinailler sur ces trucs-là. Pour moi, le gros truc visuel qu'il y a sur ce jeu-là, c'est surtout les effets de particules. Tout ce qui est feu, glace, il y a la neige, il y a de la pluie de cendres à un moment donné. C'est très très impressionnant, surtout que ça bouge à la perfection. Enfin, c'est vraiment une fête visuelle, hein, quand t'as les combats et que t'as du feu, de la glace, les ennemis qui explosent. Kratos qui s'énerve, etc. Enfin, ça, c'est vraiment merveilleux, même à regarder. S'il y a quelqu'un qui voit jouer, il prendra plaisir à vous regarder jouer aussi, parce que c'est quand même très cinématique, les combats, les caméras qui changent d'angle, etc. Mmh. Donc, visuellement, oui, ça va faire date. Après, est-ce que c'est le plus beau? Je sais pas, mais est-ce que c'est si intéressant que ça de les hiérarchiser?
Mais si, bien sûr, Johan. Il faut savoir si c'est le plus beau ou pas le plus beau du monde.
Moi, je pense que sur PC, on peut probablement faire plus beau en termes.
Avec des mods sur Skyrim ou GTA ou ce genre de trucs.
Avec surtout 5 cartes graphiques en série, pour faire tourner ça. Je pense que sur un hardware de la PS4, c'est très impressionnant de voir ce genre de choses-là.
Ouais, moi je trouve que tu le scelles un peu short. Pour faire un anglicisme magnifique, en disant sur le hardware de la PS4, c'est l'un des plus beaux jeux qui soit tout court, quel que soit le hardware. Ensuite,
oui,
peut-être qu'on peut en trouver un autre. Mais...
Ce que je veux dire, c'est que pour un hardware comme la PS4, c'est vraiment très, très impressionnant de réussir à sortir ce genre de visuel. Mais c'est le constat qu'on fait déjà avec ce qu'a fait Naughty Dog sur PC. Je ne sais pas. Si tu veux répliquer l'équivalent visuel, si on pouvait avoir, je sais pas si on pouvait mettre la galette dans le PC, je me demande quel type de config il faudrait, parce que j'ai rarement vu ça sur un PC. Moi, j'ai un PC de gamer quand même, qui est, je pense, un peu, qui a plus de patates que ma PS4 Pro, mais je sais pas si je suis capable de sortir
un truc comme ça. Ouais.
Si beau, quoi.
Parlons un peu, pour finir, de l'aspect, de l'aspect open world. Alors, j'ai dit ça sur Twitter et je crois que c'est Benoît, alias Exerve, qui m'est tombé dessus en me disant « Oh,
ben
c'est pas un open world, c'est des bulles de machin, c'est pas… »
Oui, merci, okay. Benoît.
Non, mais ok, c'est pas un open world, on est d'accord. Mais je veux dire, l'aspect liberté de ne pas suivre l'histoire linéaire ou la séquence de mission, entre guillemets, linéaire, vous le décrivez comme vous voulez, mais… Il est effectivement, moi je trouve là encore, hyper bien fait parce qu'il y a plein de choses à faire. On a par moment dans l'histoire l'option de continuer à explorer un petit peu partout. Il y a énormément de choses à faire. Vraiment, on a l'embarras du choix un petit peu comme dans un open world classique. Sauf que là encore, je trouve qu'il n'y en a pas trop. Il y en a juste assez. Et surtout, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais moi, j'ai à chaque fois que je vais quelque part explorer une petite île ou dans un petit coin un peu reculé que on n'avait pas vu, j'avais pas vu la première fois où j'y suis passé, tous les trucs que je fais, il y a là encore un équilibre parfait entre toutes les différentes activités possibles, que ça soit les puzzles, les combats, le traversal, le fait d'escalader, machin. Quand on est dans le bateau où on nous raconte, ils ont des petites histoires qui se racontent ou des dialogues quand ils sont dans les bateaux. Moi, je me suis plus d'une fois arrêté au milieu du lac pour écouter la fin du dialogue. Et d'ailleurs, si on sort du bateau, c'est hyper bien fait. En plein milieu de la discussion, Kratos dit « Bon, on s'arrête maintenant. Les histoires, c'est pour dans le bateau. Ici, on est concentré. Il y aura peut-être des combats. » Et l'histoire peut reprendre après quand on retourne dans le bateau. Et tout ça se fait sans aucune interruption. Entre parenthèses, le jeu est entièrement sans coupure de caméra. Donc, c'est un plan du début à la fin du jeu. Ce qui, moi, sur les premières heures, je me suis dit, mais attends, mais ils n'ont qu'un plan sur tout le jeu. Et effectivement, c'est le cas, je l'ai appris après.
Mais bon, donc, mentionner ça.
Ouais.
C'était promis dans les tests et tout. Ils parlaient d'un plan séquence de 30 heures. Ouais. J'y croyais vraiment pas au début. Et au final,
ça fonctionne.
De là où j'en suis, c'est toujours ça. C'est
ouais. Ouais, alors, moi, je suis un peu moins convaincu sur l'impact que ça a, en fait. Sur,
non, ça n'a pas d'impact, en fait. Ça a pas d'impact, c'est juste que c'est marrant de noter.
C'est pas un film, quoi. C'est pas comme dans
un film. Non, bien sûr.
En séquence d'une heure et demie, ça n'a aucun rapport.
Je suis d'accord. Mais revenons, c'était vraiment un détail et on commence à faire très long, donc je vais avancer. Mais sur cette question des différentes activités qu'on peut faire, de l'ouverture du jeu, est-ce que là encore, pour vous, c'est une réussite totale ou est-ce qu'il y a des trucs où vous trouvez ça un petit peu long, un petit peu lourd, quoi ?
Ouais, alors moi, je suis pas fan des énigmes. Il y en a certaines que je trouve très bien foutues, mais globalement, je suis jamais très heureux quand j'arrive devant les fameuses trois runes où il faut aller chercher des petits pots cachés, machin. Au début, je trouvais ça sympa. Après, ça m'a un petit peu ennuyé. Puis à la fin, je suis tombé sur des versions plus malines qui m'ont plu.
D'accord. Bon,
c'est pas tout noir, mais voilà, c'est pas mes moments préférés du jeu. Moi, je voulais taper des trucs. Pareil pour la grimpette, ça permet quand même de faire respirer un peu les combats, mais bon, je le mentionne pas spécialement en point positif ou pas en point négatif.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les différents trucs à explorer, les coffres à trouver, les esprits, les brasiers allumés, les chasses au trésor, il y a tous ces petits trucs, les ressources à collecter, tu vois, qui passent sans qu'on ait... C'est marrant parce que on n'a pas vraiment l'impression de se dire « Ah, il faut que j'aille chercher des ressources pour récupérer des trucs, pour augmenter mes armures, pour fabriquer des armures. » On le fait pendant qu'on joue et de temps en temps, on va aller en chercher un petit peu plus. Enfin, je sais pas, tout est... Voilà. Non ?
Si je suis pas forcément fan de ces trucs à aller chercher, là, par contre, je dois bien dire qu'il y en a pas... Enfin, il y en a quelques-uns, mais il y en a pas trop. Tu te sens pas submergé, c'est-à-dire qu'il y a fiche 1 sur 842, tu vois, c'est les trucs que tu as collectés, t'en as en général une dizaine, et c'est raisonnable, quoi. Tu peux te dire, je vais aller les chercher et y arriver. C'est pas une étape.
C'est pas décourageant, quoi. Tu te dis.
Ouais, c'est pas décourageant, ouais. Et du coup, je suis en train de le faire, à vrai dire.
Encore une fois, c'est ni trop ni pas assez. C'est cet équilibre qu'ils ont réussi. Ouais.
Pareil pour les quêtes secondaires, il y en a quelques-unes, et en fait, il y en a finalement très peu, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut être habitué dans un open world. Là, il y en a quelques-unes, elles sont souvent intéressantes, elles amènent des dialogues qui sont assez sympas, Et il y en a, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y en a 10 ou 15 max, quoi. Tu peux vraiment te faire une session quête secondaire dans ton après, mais quasiment tout finir, si tu en as envie. Et du coup, enfin, moi, j'aime bien ce dosage-là, justement. J'aime bien ce dosage où il y a des choses à faire, et en même temps, c'est pas un truc que je sais qui va me décourager, comme dans un open world Ubisoft, où je sais que l'attaque des camps, au 34e, je vais en avoir marre, quoi.
Moi, sur l'aspect open world que tu parlais juste avant, le fait de pouvoir sortir de la trame principale et aller un peu où on veut, bah, j'ai peut-être pas eu de chance, mais j'étais un petit peu déçu parce que ça m'est arrivé quelques fois de me dire, bah, tiens, je vais pas aller où ils me demandent d'aller et je vais juste me balader. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a Atreus, le petit, on voit encore la différence de personnalité entre son père et lui. À un moment, il se passe quelque chose dans le monde là, qui ouvre d'autres, comment ça s'appelle, d'autres passages, d'autres îles. Atreus, il voit ça, il dit, ouais, c'est bien, on va pouvoir visiter plein de choses encore. Et son père qui dit, non, faut qu'on fasse l'histoire, quoi. En gros,
Mais c'est
c'est marrant.
encore une fois,
Oui.
c'est un moyen de faire passer aux joueurs ces informations qui sont importantes. Parfois, Atreus dit, bon, on peut soit aller faire ce truc qu'on est censé faire, ou alors on peut aller explorer, hein, on s'en fout, on a du
Ouais,
temps, non?
c'est ça.
Et y a ce jeu avec son père qui lui dit, et genre quand finalement tu vas faire un truc, et Atreus il te dit, ah bah tu vois, c'est cool d'aller faire ça pour cette raison, et le père qui lui répond, non mais si on fait autre chose, c'est uniquement parce que ça nous permet d'être plus mieux préparés
Ouais,
à notre
c'est ce que j'allais dire.
mission, c'est magique quoi.
Exactement.
Et du coup, moi, quand j'ai essayé d'aller voir ailleurs, je l'ai essayé deux fois et à chaque fois j'ai pas eu de chance parce que un peu au fur et à mesure de l'histoire, on va débloquer des compétences pour pouvoir désactiver certaines portes qui sont bloquées. Un peu comme quand dans un Zelda on débloque la bombe, bah, ça nous débloque plein d'endroits. Il y a pareil dans God of War. Et la première fois que j'ai voulu aller voir ailleurs, bah, je suis tombé sur ce genre de pas pu avancer. Et la deuxième fois, je suis tombé sur un monstre qui m'a complètement explosé et qui était beaucoup
Ah oui,
trop haut
pas
niveau.
trop,
Et
effectivement.
dit bon, bah je vais continuer l'histoire. Mais
Moi,
c'est très
ça
bien
c'est
aussi.
un élément qu'on n'a pas trop évoqué, c'est en fait la difficulté, c'est que le jeu propose quand même un certain challenge. C'est-à-dire qu'il y a trois modes, il y a le mode histoire, le mode enfin, normal qui s'appelle défi, et le mode vraiment difficile. Et même en mode facile, c'est pas juste donné, quoi. C'est pas, tu vas pas gagner tous tes combats comme ça. Et c'est d'autant plus vrai en mode normal, où vraiment il faut jouer au jeu, donc c'est-à-dire jouer avec les mécaniques du jeu pour s'en sortir. Et les quêtes secondaires, en tout cas quelques-unes, sont vraiment un gros cran au-dessus de ce que tu trouves dans l'histoire générale, quoi.
Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On n'a pas parlé de la musique ou d'autres éléments, mais on va pas non plus passer 3 heures dessus.
On pourrait.
On pourrait. Peut-être en conclusion, candidat Gotti, je pense. pour tout le monde, non?
Pour moi, Céleste est toujours devant.
D'accord, Céleste
Voilà.
toujours devant, mais il est
Il
pas
a un
loin
bon
derrière, j'imagine, je sais pas.
potentiel deuxième. On verra d'ici la fin
D'accord,
de l'année.
comment l'année se
Ouais,
déroule, Thomas?
là pour moi, ça rentre dans deux versions d'apprécier le jeu vidéo. Donc,
Ouais, c'est
j'arriverai pas à faire un
difficile, ouais.
classement. Ouais,
C'est
voilà.
difficile parce qu'effectivement, Céleste, pour moi aussi, c'était mon premier candidat GOTY de l'année. C'est tellement différent comme jeu, c'est compliqué de... Bon, vous savez quoi? On va simplement déterminer que GOTY, ça veut dire Games of
Allez,
the
voilà, c'est ça,
Year,
c'est
et on
dans
peut
la
en choisir
liste.
autant qu'on veut, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de raison de se priver.
Dans ce cas,
Mais,
d'accord, allez.
ouais, ok. Ouais, non, mais enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il est dans la compétition, quoi. Et il est. Je pense pas qu'il soit dans le jeu qui définisse la génération. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est un jeu qui change le jeu vidéo, qui change l'industrie. Moi, je trouve que par son excellence dans tous les domaines, comme je disais, dans tout ce qu'il fait et dans son parfait équilibre dans tout ce qu'il fait, il met un nouveau standard, en quelque sorte. Mais je ne sais pas encore, bon, je ne l'ai pas fini, donc c'est difficile à dire, je ne sais pas encore s'il est à ce point intéressant et à ce point réussi. Mais par contre, rien que sur ces quelques, disons, ces 15 premières heures, pour moi, c'est déjà un des jeux de l'année à coup sûr, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, on arrive donc à la fin de cette grosse partie God of War. Est-ce que vous avez réussi à penser à un hashtag qu'on pourrait donner pour gagner cette version de God of War, qui est une version d'ailleurs finlandaise, qui marchera bien sûr, mais vous aurez au dos du jeu les textes, enfin au dos de la boîte, les textes en suédois, en finlandais, enfin en finnois, en islandais, je pense, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment la version nordique, parce qu'on ne l'a même pas mentionné, mais God of War, cette version, c'est après avoir détruit l'ensemble du panthéon grec des dieux et des titans, et ben Kratos s'est exilé dans le panthéon nordique, donc c'est tout à fait approprié. Donc est-ce que vous avez une idée de hashtag qu'il faut mentionner, le hashtag secret ?
Alors moi, j'avais pensé au hashtag rendez-vous, donc RDV, Dad of the Year.
RDV, Dad of the Year, pas mal. Thomas, t'as une autre idée ?
Non, mais de toute façon, c'est toujours Johan qui a les idées les plus drôles. Donc, je sais que je vais perdre si j'essaye.
D'accord. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever RDV pour simplifier la chose un petit peu. Et c'est Dad of the Year, Kratos, très certainement Dad of the Year. Alors, est-ce que c'est Kratos ? Est-ce que c'est Patrick, le Dad of the Year ? On ne sait pas trop. Même Johan, il est bientôt Dad, donc...
Oui.
Donc, Dad of the Year, ok. Bah, très bien, donc Dad of the
D'ailleurs,
Year...
D'ailleurs, j'ai tout appris de Kratos, et je vais pouvoir lui dire « Don't be sorry, be better
voilà. !» Mais tu sais que, moi, en fait, après... avoir joué à The Last of Us, je me disais, ah, mais il faut que j'ai une fille, quoi. Et quand j'ai appris que c'était un garçon, je me suis dit, ah merde, quand même. Bon, et là, avec God of War, c'est bon, je suis réconcilié avec mon fils. En fait.
T'as un jeu sur lequel t'appuyer pour donner une
paternité. Donc je pense que je vais. Bon, en même temps, je suis pas sûr que Joël serait un meilleur père hein, que Kratos.
Non, c'est pas certain.
Au niveau des valeurs, tout ça, bon, les conditions sont différentes, mais. Bon, donc hashtag Dad of the Year, il faudra répondre à mon tweet ou à mon message Facebook avec le hashtag Dad of the Year. Vous savez quoi ? Pour pouvoir le différencier du hashtag normal, je vais quand même dire hashtag RDV Dad of the Year.
Eh ben c'est pour ça que j'avais mis le RDV.
Ouais, non, mais t'as raison. Donc, hashtag RDV Dad of the Year. Et comme ça, j'ai un jeu à faire gagner. Pas besoin de RT, follow, favori, machin, tout ça, on s'en fout. C'est juste qu'il faudra répondre au tweet ou à Facebook. Et puis, je sélectionnerai une réponse au hasard. Et je vous contacterai. Et puis, je vous l'enverrai par courrier, puisque c'est une version physique du jeu. Voilà pour God of War. Bon, bah écoutez, ça fait déjà une heure que l'émission a commencé, mais je pense que le jeu valait bien la peine. On va continuer rapidement avec quelques news et quelques rumeurs. D'abord, l'E3 arrive. Ubisoft est en train de teaser Watch Dogs 3. Je crois qu'ils sont en train de teaser Watch Dogs 3 dans Watch Dogs 2. Donc... voilà, c'est bien ça. C'est dans l'assistant Ubisoft.
Ah oui, c'est ça. C'est leur nouvel assistant qui.
Ouais.
Ça a été une continuation en fait. Dès le 1er avril, ils avaient fait un Easter egg où en fait on pouvait aller hacker comment il s'appelle leur truc Uplay. On pouvait aller hacker comme dans Watch Dogs. Puis il y avait eu un tweet du compte officiel de Watch Dogs qui était flou. Enfin, c'était genre This is everything, un truc comme ça. Ils l'ont effacé. Et le week-end dernier, il y a eu ça avec l'assistant.
Bon, donc on s'attend à voir Watch Dogs 3 à l'E3 chez Ubisoft, qui vient d'annoncer la date de sa conférence d'ailleurs.
Puis ils ont parlé de The Division 2 aussi récemment.
Oui, ça fait un moment.
Oui. Mentionné. Mais du coup, depuis, ils ont annoncé que l'équipe bossait sur un Battle Royale, l'équipe qui s'occupe de The Division. Donc moi, j'espère un petit peu. Avoir un Battle Royale avec le budget de The Division, ça me plairait bien.
Bah écoute, en tout cas, les Battle Royale, ça va être, ça va pleuvoir à l'E3, puisqu'on a des rumeurs selon lesquelles le prochain Call of Duty n'aurait pas de campagne solo, mais possiblement un mode Battle Royale. C'est surprenant de voir un Call of Duty sans campagne solo, parce que, bon, en même temps, ça fait tellement longtemps, peut-être que les gens ne sont plus si intéressés par la campagne solo, mais c'était quand même l'un des attraits, enfin, la moitié de l'attrait, il y a quelques années, de Call of Duty, c'était plein de gens qui jouaient qu'à la campagne solo. Visiblement, ils ont peut-être une autre idée en tête.
C'est étonnant, mais je sais que je suis dans ma bulle, mais moi, je vois autour de moi, c'est quasiment que des gens qui l'achètent pour les campagnes solo, y compris moi. Mais bon, j'imagine que la cible maintenant n'est
Peut-être
plus
qu'il
forcément
change.
celle que je fréquente.
Et encore un Battle Royale pour Battlefield. Il risque d'y avoir un Battle Royale sur le prochain Battlefield qui reviendrait à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un petit peu la pluie des Battle Royale qu'on attendait, hein, finalement. On n'est pas si surpris. Tiens, puisqu'on parle de Battle Royale rapidement, je crois qu'aucun d'entre nous n'y a joué, mais on en parlait à l'épisode précédent et je disais que j'avais hâte de voir ce qu'allait faire Bosky Productions après l'arrêt de Lawbreakers, le studio de Cliff Bleszinski. Eh ben, j'ai peut-être parlé un peu vite parce que finalement, ce qu'ils ont annoncé le lendemain, la sortie en Early, Early, Early Access de Radical Heights, qui est un Battle Royale aussi, qui est en mode genre rétro-futuriste, on est dans le futur, mais ça ressemble aux années 80. C'est méga Early Access. Bon, je ne suis pas un spécialiste des Battle Royale, ce n'est pas mon style de jeu, mais je n'ai pas l'impression que celui-là soit vraiment. Enfin, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'ils ont fait, en fait. Je crois qu'ils se sont dit, il ne faut pas qu'on rate le train des Battle Royale, donc il faut qu'on le sorte super vite. Et du
J'ai
coup, il est
l'impression
sorti
qu'ils essaient de
tellement
faire
vite que.
de l'argent un peu rapidement. Le dernier projet a dû leur faire très mal, Lawbreakers. J'ai l'impression que, en fait, bah, tu disais early, 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 early access, mais on peut déjà acheter des trucs dans la boutique. Donc je pense que c'est vraiment un signe que
Ils ont besoin de faire
le
rentrer de l'argent,
studio
quoi.
ont besoin de financement. Et effectivement, il y a les Battle Royale en ce moment, alors ils sont dessus. Mais ouais, je suis pas du tout optimiste, ni sur le jeu, ni sur. Enfin, voilà.
Ils annoncent une durée de bêta qui irait de 1 à 2 ans.
Bah, le
Parce que
jeu
les
vient
Battle Royale, ça
de.
sera pas terminé d'ici là.
Ouais.
Enfin, c'est.
Le jeu vient de le développement est, enfin, il est en développement depuis genre 4 ou 5 mois, donc ils viennent de commencer. Et ça se ressent dans le jeu. Et en
Et puis.
plus, enfin, bon, peut-être qu'il y a des éléments spécifiques qui sont intéressants dans le contexte du genre Battle Royale, c'est possible, et peut-être que je ne les vois pas effectivement parce que ce n'est pas mon style de jeu, mais j'ai du mal à les voir faire leur place, quoi. Si t'es
C'est
un, sur
compliqué.
ce genre de truc, si t'es un énorme développeur, on va peut-être prêter attention. Encore qu'il y a Ninja, le plus gros streamer de l'histoire, qui a streamé Radical Heights au moment de la sortie et ça leur a ramené du monde, mais je les vois mal durer sur le long terme, quoi.
Ouais, surtout qu'ils vont arriver à un moment où tous les gros incluent le Battle Royale dans leur jeu, donc dans Battlefield, on vient de le dire, dans Call of, s'il y en a un dans Red Dead par exemple, donc ça fait que le paysage commence à bien être occupé, puis niveau gratuit, il y a déjà Fortnite qui y a quand même une place qui continue de grossir, etc. Enfin bref, voilà,
C'est compliqué, quoi.
Ouais,
C'est
c'est ça
compliqué
qui est
pour eux.
étonnant, surtout que, comme tu disais juste avant, Lawbreaker il s'est planté, notamment parce que Overwatch existait déjà. Et là, il fait un Battle Royale quand PUBG et Fortnite existent, quoi.
Ouais. Et quand tout le monde arrive, il y a une sorte de charge de charge de bulldozer de
Ben
sur
ouais.
le Battle Royale. Et non, mais c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, il faut qu'on le sorte tout de suite, parce que dans un mois et demi, c'est le 3. Il va y avoir non plus 10 Battle Royale, mais 150. Donc, on ne pourra plus sortir de la tête de l'eau si on ne le fait pas tout de suite. Et c'est sans doute ce qui explique, en plus des besoins de rentrée d'argent, leur décision, quoi.
C'est certain.
Rumeur sur la PlayStation 5. Alors, certains évoquaient une possibilité de sortie dès l'année prochaine de la PlayStation 5, étant donné les diffusions
Des dev kits?
des dev kits. Merci beaucoup, Johan. Non, je viens de penser que j'ai pas encore une fois refait le topo sur God of War. C'est une série qui se réinvente alors qu'on a des dizaines de séries qui savent pas se réinventer. On laissera ça pour les discussions de Game of the Year et puis surtout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, mais c'est 1000 fois vrai. Il se réinvente en gardant vraiment le cœur de ce que faisait God of War. Donc, incroyable. Bref, PlayStation 5. Maintenant, ce dont font état les rumeurs, c'est qu'il n'y aurait pas de sortie avant 2020, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce que Sony n'est pas du tout en danger, au contraire, avec la PlayStation 4. et j'irai même jusqu'à dire qu'ils n'ont aucun intérêt à rebattre le jeu, en fait, rebattre les cartes des générations de consoles. Et comme Microsoft a sorti leur console upgradée seulement l'année dernière, ils ne vont pas en ressortir une avant au moins 2020, je pense. Donc, et d'ici là, Sony continue à allonger son avance, d'autant plus qu'ils ont, au niveau de la bibliothèque, ils ont quand même, je ne sais pas, 10, 50 fois plus de jeux exclusifs que Microsoft. Donc, je vois pas Sony sortir une PlayStation 5 tout de suite, par contre, ni dans les deux prochaines années. Par contre, Mark Cerny, qui était responsable de la PlayStation 4 et en charge de la PlayStation 5, et moi, je mettrai ma main à couper qu'elle sera entièrement rétro-compatible maintenant qu'ils ont une architecture PC digne de ce nom. Je suis convaincu que la PlayStation 5 sera 100% rétro-compatible avec la 4. Par contre, bien sûr, les jeux de la 5 ne tourneront pas sur la 4. C'est seulement l'inverse. Donc voilà, ça c'est juste une confirmation d'un truc qu'on pensait déjà, mais qui contredit certaines rumeurs assez invraisemblables qui parlaient d'une sortie l'année prochaine pour la PlayStation 5.
Il y en a même qui en parlaient pour fin 2018. Hein.
Oui, ce qui est complètement ridicule, quoi. C'est surtout du fait que, d'une part, tout le monde voudrait que les durées de génération s'allongent, et puis où est l'intérêt de Sony à sortir une nouvelle console alors qu'ils ont déjà une avance longue comme trois bras sur cette génération ? C'est surtout ça, en fait.
Il faut juste qu'ils soient prêts et réactifs le jour où les ventes de hardware commencent à péricliter. Et du coup, bah, ça rentre dans cette stratégie-là. Ils doivent estimer que d'ici 2 ans, ça va commencer à décliner. Donc, il faut qu'ils soient prêts et sur le front.
Ben moi, je dirais, c'est même pas ça, en fait. Moi, je dirais qu'il faut qu'ils soient prêts pour le jour où Microsoft annonce une nouvelle console ou quelqu'un d'autre. Mais jusqu'à ce que... Parce que le jour où les ventes de consoles commencent à descendre, la nouvelle, la PlayStation 5, c'est pas aux acheteurs potentiels de PlayStation 4 qui vont la vendre. C'est à ceux qui ont déjà une PlayStation 4 et ils font pas énormément d'argent sur les consoles. Donc, si déjà, ils vont continuer à baisser le prix, donc ils vont continuer à en vendre des PlayStation 4. Et ensuite, ils n'ont plus cette charge des consoles sur lesquelles ils gagnent plus beaucoup d'argent. Mais par contre, ils continuent à engranger les royalties sur les jeux. Donc pour eux, tant qu'ils peuvent faire durer et faire allonger la sauce, c'est tout bénef, quoi. Le danger viendrait d'un nouveau concurrent qui commencerait à prendre le marché des consoles. Et ça pourrait être Microsoft, par exemple, qui annoncerait une nouvelle version de la Xbox, là encore, qui sera certainement rétro-compatible. Parce que moi, j'y crois pas à la nouvelle Xbox qui continuera Xbox X, Xbox XX. Pour moi, ça sera une toux et elle sera pas forward compatible. Donc, les jeux PlayStation...
Ouais, je suis un peu de cet avis-là. Et après, moi, j'ai peut-être un avis un petit peu erroné sur le sujet, mais j'imagine que chaque groupe, Sony et Microsoft, savent un peu ce que fait l'autre. Donc je pense pas que ça soit par surprise que l'un annoncerait une console et que l'autre sans préparation, ce genre de choses-là.
C'est sûr, mais là en tout cas, la visibilité qu'il y a, c'est que la Xbox One X vient de sortir. Microsoft va jamais sortir, peut pas se permettre de ressortir une console, on va dire, avant 2020, quoi. Donc,
niveau image, ça serait pas idéal.
Ouais. Parlons un petit peu de lootbox. Je sais que personne n'a envie, mais quand ça fait les news, il faut. La Hollande a rendu un rapport, ou en tout cas l'autorité de jeux d'argent de la Hollande a rendu un rapport sur les lootbox. Et c'est assez intéressant parce qu'on a vu des gros titres disant « La Hollande déclare que les lootbox sont illégales » de manière assez peu subtile. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est qu'effectivement, l'autorité qui régule les jeux d'argent en Hollande a étudié une dizaine de jeux qui contiennent des lootbox, et ils ont déclaré que 4 d'entre eux n'étaient pas en conformité avec la loi hollandaise. Sauf que, quand on va regarder en quoi ils ne sont pas en conformité, ce sont des choses très spécifiques. C'est, d'une part, le fait qu'on puisse échanger ces jeux échanger les objets gagnés entre joueurs, ce qui fait que mécaniquement, on peut aller les échanger sur des sites tiers et donc les vendre sur des sites tiers. Donc, ça attache une valeur monétaire à ces objets qu'on peut gagner dans les lootbox. Et c'est ça qui est le principal problème qu'ils ont pointé du doigt. L'autre élément qui est un petit peu plus difficile à décrire spécifiquement, c'est la capacité d'ouvrir des lootbox en succession rapidement et avec des effets visuels trop attrayants. genre destiné à rendre le truc un petit peu trop lumineux avec des étoiles qui pourraient plaire aux personnes trop sensibles comme les enfants, par exemple. Bon, ça, c'est un petit peu moins difficile à définir parce que qu'est-ce qui est assez d'effets visuels et qu'est-ce qui n'est pas assez ou qu'est-ce qui est trop, je ne suis pas certain qu'on puisse le définir. Par contre, effectivement, le fait qu'on puisse échanger les objets, là, même moi qui suis généralement, qui dit attention, toutes les lootbox ne sont pas mauvaises, j'ai tendance à dire le fait qu'on puisse échanger, c'est forcément ça amène la vente sur des sites tiers, même si le joueur, le développeur interdit cette pratique dans les règles. Et ça, c'est compliqué à gérer, à interdire. Et donc, oui, moi, je trouve que là, c'est pas à moi de dire si c'est illégal ou pas, mais effectivement, ça introduit une notion de jeu d'argent quelque part. Donc,
c'est ça, à partir du moment où on peut échanger entre deux joueurs, rien n'interdit d'aller sur un forum et de dire bah, pour 10 euros, je vends ce truc-là, on se met d'accord, on me donne l'argent, puis on se retrouve dans le jeu, puis je le donne.
C'est ça.
Donc, à partir du moment où il y a de l'échange, forcément, la vente est possible et on peut transformer la mécanique de lootbox en machine à sous direct. Quoi. Il n'y a pas trop de.
Donc sur ce point, je suis effectivement assez d'accord avec la conclusion de l'autorité de.
On n'a pas eu la liste des jeux impactés. On sait les jeux qui ont été étudiés, mais on ne sait pas ceux qui sont en porte-à-faux, je crois.
Voilà, ils ont même pas mentionné quel jeu était.
J'avais vu des exemples, mais.
Oui, mais les exemples, c'était la presse néerlandaise qui a donné des noms de jeux qui avaient des lootbox, mais sans aucune. sans aucun rapport avec le. Mais bon, même là, on se demande ce que vont faire les développeurs impactés. Est-ce qu'ils vont. Enfin, ils vont pas pour la Hollande. Supprimer la possibilité d'échanger les objets dans leur jeu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, c'est il y a un point d'interrogation là-dessus.
Mais il y avait aussi, ils prenaient en compte dans leur tableau comparatif des différents critères pour juger des jeux, notamment le PEGI. Donc, c'est rentré en ligne de compte. Donc, j'imagine qu'effectivement, pour
ils le passeront en 18 plus, quoi.
Il faudra le passer juste, effectivement, en 16 plus ou ce genre de choses-là.
Valve a annoncé qu'ils avaient acheté le studio Camposanto, qui est le développeur de Firewatch et qui est en train de développer, je ne me souviens plus du nom de ce jeu qui a lieu en Égypte. Ah,
In the Valley of Gods, c'est ça.
Merci, voilà, In the Valley of Gods, exactement. Et donc Valve achète Camposanto. C'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines à peine, Gabe Newell disait « on va se remettre à développer des jeux maintenant ». Et du coup, effectivement, maintenant, Camposanto, c'est Valve. Camposanto développe des jeux, donc Valve développe des jeux. C'est facile, pas bête, ils ont un peu d'argent à dépenser. Donc,
Microsoft devrait apprendre, je pense.
Ouais. En plus, Gabe Newell vient de Microsoft à l'origine, donc devrait leur passer un coup de fil. Bon, Camposanto, Firewatch, jeu très intéressant, j'en avais parlé à l'époque. Mais oui, c'est pourquoi pas. Je ne suis pas convaincu que c'est exactement ce dont avait besoin Valve, mais pourquoi pas.
Oui, et puis je suis pas sûr que c'était, que Camposanto soit forcément. J'imagine que s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont peut-être des difficultés. Enfin, je sais pas trop.
Non, moi je pense que c'est.
Analyser ça.
Moi, je pense que c'est bénéfique surtout à Camposanto d'être chez Valve. Enfin, ils vont être mis en avant chez. Déjà, on parle beaucoup plus d'eux. Ils vont être mis en avant sur
Bien
Steam.
Bien sûr. Oui, c'est certain. C'est certain. Après, du coup, j'imagine qu'ils seront dans les équipes de Steam pour faire d'autres jeux après ça.
J'espère, oui.
Moi, c'est des gens que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Firewatch, donc j'espère en voir.
Excuse-moi,
d'autres.
Je t'interromps encore, Thomas, mais ils ont dit qu'ils allaient opérer indépendamment. Donc, je ne sais pas s'ils vont mélanger les équipes, mais on verra.
D'accord.
Pardon, Thomas, vas-y.
Non, mais pour moi, comme vous le disiez, ça ressemblait à ça. On sait que ces dernières années, ils ont perdu beaucoup de scénaristes côté Valve. En même temps, je me demande bien ce qu'ils pouvaient faire aussi ces dernières années, ces gens-là, vu qu'il n'y a rien qui sort. Donc, le scénariste d'Half-Life, Left 4 Dead, Portal, tout ça, ils sont partis. Pour moi, avec cette acquisition, c'est principalement ça, à acquérir des scénaristes. Parce que,
les gens qui savent raconter des histoires.
Voilà, parce que c'est l'essentiel de leur jeu. Même, on mentionnait In Valley of Gods. Alors, c'est toujours prévu pour 2019, et ils ont dit que... comment s'appelle, bah, le développement n'était pas impacté en fait. Ils font toujours leur jeu et Valve agira pas dessus. Et c'est encore une aventure narrative. Donc c'est vraiment leur truc à eux, ça, c'est la narration.
Ouais, t'as pas tort, ouais, effectivement. Sirius Sam est en train de revenir. Il y a eu un court trailer pour Sirius Sam 4. Moi, j'ai jamais joué à Sirius Sam, mais je l'ai entendu décrit, je sais plus où, comme Duke Nukem, mais en bien. Donc, ça m'a fait rire. Vous qui avez peut-être joué à Sirius Sam, c'est vous attendiez le retour de ce personnage et de ce jeu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on s'en fout un peu? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, personnellement, je m'en fous pas. Sirius Sam, pour ceux qui connaissent pas, dans les grosses lignes, hein, c'est alors déjà, très bon point, ça se joue en coopération. On peut y jouer à plusieurs, et donc ça, c'est toujours bien de le mentionner. Et on a des flingues, on a des gros flingues, comme dans Duke Nukem. On se bat contre des extraterrestres et des trucs qui ressemblent à des démons, enfin voilà, qui... Ce genre de bestiaire, comme dans Duke Nukem, et on se bat contre des vagues de ces monstres-là. Ils arrivent par 10, par 20, enfin, c'est de la grosse boucherie en fait, c'est extrêmement bourrin. Le scénario est ridicule au mieux, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Les décors, c'est jamais très joli, c'est assez basique. On va se battre dans des temples, dans des villes, enfin, c'est pas. Mais justement, c'est une dose de bourrinage qui fait plaisir tant. En temps, moi j'en ai joué à deux, il y en a eu trois, j'en ai joué à deux de ceux-là en plus de 10 ans, quoi. Donc, et là, un troisième qui arrive, enfin, un quatrième du coup, mais un troisième pour moi, je suis content que ça revienne parce qu'on va y jouer quelques soirées avec des potes et voilà.
D'accord, bon ben on aura plus d'infos à l'E3 très certainement. D'autres petites mentions rapides. Platinum Games est en train de sortir un jeu sur mobile. Ça s'appelle World of Demons. Bon, c'est pas encore sorti, hein, mais c'est un jeu. C'est intéressant parce que Platinum Games, c'est vraiment leur focus, c'est vraiment le gameplay. Et là, ils vont faire un gameplay beaucoup plus basé sur le timing que sur l'exécution. Donc, ça pourrait être intéressant. En plus, les graphismes sont intrigants. Ça ressemble beaucoup à des estampes. Voilà, à suivre, à voir quand ça sortira chez nous. Toujours sur mobile, on a Castlevania qui va sortir un nouvel épisode. Attendez que je retrouve le nom. Ah oui, c'est Grimoire of Souls. C'est en multijoueur sur mobile aussi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, ça, franchement.
Est-ce que tu es hypé, Patrick?
Non.
Toi qui aimes bien les Castlevania.
J'adore les Castlevania, mais mobile, ok, pourquoi pas. C'est... Mobile, multi. Mais là encore, pourquoi pas, hein, je sais. Et je suis surtout content que Konami continue à faire des jeux. Mais. Bon, je sais pas. Je suis intrigué plus que hypé, on va dire. À vrai dire, je suis intrigué par le World of Demons aussi. Hein. Je suis pas tout de suite hypé, on va dire.
Bah, mais... Moi, beaucoup plus aussi.
Voilà, moi, beaucoup plus par World of Demons parce que déjà, il a l'air très joli. Et puis, quand j'apprends que Platinum est dessus depuis 3 ans, ce qui me paraît plus que la moyenne pour des jeux mobiles, après, je c'est un petit peu à l'emporte-pièce, mais j'ai l'impression que c'est un temps de développement un peu long pour un jeu mobile. Donc du coup, je suis beaucoup plus intrigué, et c'est le genre de jeu que je pense que j'essaierai rapidement à la sortie. Par contre, ouais, Castlevania, sur mobile, avec un Konami qui n'est pas au top en ce moment au niveau démonstration de bons jeux, on va dire. Voilà, je suis pas un peu...
T'es pas convaincu, ouais, a priori. Dark Souls Remastered, malheureusement, il est décalé. Il est décalé et il ne sortira pas en même temps qu'ailleurs sur Nintendo Switch. Donc, c'est marrant parce qu'on a vu, je crois que c'était toi, Johan, qui tweetait.
Ouais.
on a eu des réactions outrées.
C'est ça. C'était la fin du monde. Tout le monde veut tuer Nintendo.
C'est marrant parce que.
C'est la preuve, elle est là.
C'est marrant parce qu'il y avait des gens effectivement qui disaient « Ah, mais il sortira 3 mois ou 4 mois plus tard sur Nintendo Switch.
Autant ne pas y jouer. »
Autant ne pas y jouer parce que ça sera beaucoup trop tard. Pour un jeu qui est quand même sorti il y a quoi, 8 ans, 6 ans, 8 ans
7 ans, ouais.
Quelque chose comme ça. Donc bon, c'était amusant. Mais si vous attendiez Dark Souls Remastered sur Switch, eh ben, il sortira après les versions PC et console. Je voulais mentionner The Walking Dead, le jeu de Overkill dont on avait entendu parler il y a, je sais pas, ça doit faire 3 ans peut-être, et qui n'a pas fait beaucoup de bruit depuis. Et entre-temps, la hype Walking Dead est quand même bien retombée. Mais ce trailer qu'ils ont montré, moi, m'a pas mal intrigué, en fait, parce que ça montre un personnage qui ce qu'il était avant et après l'arrivée des zombies. Et là encore, je trouve que ça fonctionne. L'esprit Walking Dead fonctionne vachement bien. Et étant donné que le jeu sera une sorte de Left 4 Dead a priori, comme tu le disais Thomas, quand c'est en multi et en coop, c'est toujours sympa. Moi, je suis quand même intrigué par le jeu. S'ils réussissent leur truc, alors bon, je ne sais pas comment on va faire pour créer de la tension avec des zombies qui marchent lentement, contrairement à Left 4 Dead, mais... Le jeu est en développement depuis un moment, ils ont l'air de s'y atteler avec sérieux, donc pourquoi pas, je suis là encore intrigué, on va dire.
Après, dans The Walking Dead, c'est pas que les zombies qui sont des ennemis, donc on peut
imaginer
qu'il y ait d'autres ennemis qui savent courir.
C'est vrai, bête. Et puis ça peut être intéressant de développer un gameplay avec des hordes de zombies immenses et puis ils commencent à se rapprocher de plus en plus et on n'a pas assez de balles ou de trucs pour tous les tuer, il faut choisir les armes, ils commencent à se rapprocher, peut-être, ils se marchent dessus et tout, bon, peut-être. Deux petites news matérielles, une dont on s'en fout et une dont on s'en fout pas.
Alors, je sais pas laquelle est laquelle. Hein.
Écoute, la Mega Drive Mini est annoncée au Japon. Je vous avoue que je suis assez peu intéressé. Mais déjà, j'étais pas très intéressé par la Super Nintendo Mini. Donc, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et entre parenthèses, en même temps, il y a Shenmue et Shenmue 2 qui vont sortir en version Ultimate Remaster sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Je pense que ça sera l'occasion pour tout le monde de se rendre compte à quel point, à l'époque, Shenmue avait des concepts intéressants, mais bon, était un jeu de son époque, on va dire. Non, j'exagère. C'était un jeu qui... C'était le premier jeu qui essayait de recréer un monde... ou le monde tel qu'il est. Le problème, c'est qu'il allait tellement loin qu'il était quand même... fallait travailler, c'était un peu chiant. Mais bon, depuis, les jeux ont beaucoup tiré de leçons de Shenmue, mais il a mal vieilli, on va dire. Bref, entre la Mega Drive Mini et Shenmue 2, vous êtes intéressé par des trucs là-dedans ?
Moi, personnellement, ni l'un ni l'autre.
Non, mais toi, t'es un fanboy Nintendo, donc...
à l'époque, c'est vrai que j'avais la Super Nintendo, j'avais pas de console Sega, donc j'ai pas trop connu. Mais ceci dit, la Dreamcast, j'ai passé pas mal de temps, et Shenmue, j'ai connu. Je crois que c'est la première fois que Shenmue et Shenmue 2 reviennent ailleurs que sur Dreamcast.
Shenmue 2 était sur Xbox.
Ouais. Aux États-Unis, je crois seulement, ouais, ou en Europe, je sais
pas. Voilà. Il n'y avait même pas le 1, ce qui n'a pas trop de sens, j'ai pas envie de la refaire. Non, clairement.
Ouais, on est d'accord.
Alors, moi, pour le coup, le Mega Drive, c'est la console c'est ma première console, hein, c'est la console de.
Ah, sentiment.
Mais j'ai toujours la Mega Drive et j'ai toutes les cartouches, je pense que je puisse rêver de jouer, donc le hardware m'intéresse pas. Par contre, une version, un pack avec sur Switch, ça pourrait me faire craquer éventuellement selon le pricing, selon la liste de jeux qui sont dedans, parce que c'est quand même pratique, c'est plus pratique d'amener sa Switch dans le train que sa Mega Drive avec la télé cathodique. Avec...
oui, donc, je ne l'ai pas mentionné, il y a des jeux Mega Drive, des Master System en fait. Et Mega Drive, t'as raison, qui arrive sur Switch. Je pense qu'ils vont être à 5 ou 10 euros pièce. Je suis sûr que Sony, ils vont pas le vendre à 1 euro, tu vois. Donc,
C'est dommage.
SNK va également visiblement dévoiler une machine pour ses 40 ans. Et j'imagine mal que ça soit autre chose qu'une Neo Geo Mini. Ils suivent la mode. Et pour le coup. Non, en fait, non. Mais j'en achèterai pas, mais je suis un poil, juste un poil plus intéressé par une Neo Geo Mini que par une Mega Drive Mini, parce que la Neo Geo, c'est une machine qui est tellement fantasmée que forcément, ça fait un petit peu plus rêver. Mais voilà, pas plus que ça.
J'avoue que s'il y a un stick arcade avec, je commencerai à m'y intéresser. Après, j'ai un peu peur du prix de cette bestiole-là, sachant le passif de la...
ils peuvent pas. À l'époque, ça coûtait quoi, 4000 francs, un truc comme ça, c'était hors de prix.
Ouais, mais si c'est 250 euros, par exemple, je suis sûr.
Non, mais jamais de la vie. Enfin, t'es fou, 250 euros, c'est une PlayStation 4.
Ouais, mais il y a le côté pour les 40 ans.
Ah,
truc un peu
d'accord, oui.
exclusif. Je sais pas, j'attends de voir.
Bon, bah on verra. Dernière news, ah oui, Nintendo Labo est disponible aux États-Unis et je crois au Japon, et ils ont confirmé qu'ils allaient vendre des plus de packs de carton là. Donc ça sort dans quelques jours chez nous. On aura l'occasion d'en reparler, je suis sûr. Mais si vous cassez vos cartons ou si vos enfants les décorent un petit peu trop, et ben vous pourrez les remplacer.
Il y a déjà plein de vidéos en ce moment sur Twitter avec des gens qui s'amusent avec les Nintendo Labo, c'est assez sympa. Des gens qui font des vrais trucs, qui essayent de faire des vrais trucs, et aussi beaucoup de vidéos de chats qui vont dans les cartons de Nintendo Labo, évidemment.
Ouais, bah, ça, il fallait s'y attendre. Pour info, les packs seront entre 3 et 12 dollars. Donc ça va, c'est pas hors de prix, quoi. Et puis, dernière news, Ben Brode va quitter Blizzard, va quitter Hearthstone, et il va aller travailler pour un nouveau studio dont je pense il fera partie des membres fondateurs. Ben Brode, bien sûr, c'est l'un des développeurs principaux de Hearthstone, et c'est évidemment important puisque Hearthstone continue à être un jeu hyper populaire, que ça soit sur mobile ou sur PC. Énorme succès de Blizzard à l'époque, on s'en souvient. Je travaillais encore dans la boîte et j'avais participé au lancement, donc il a une signification un petit peu particulière pour moi, mais clairement, il a créé ou du moins régénéré l'intérêt pour le genre des jeux de cartes, et il y en a beaucoup qui ont suivi et qui suivent toujours. Une formule absolument impeccable du style de jeu de cartes qui a été ravigoré, rafraîchi par l'équipe qui a développé le jeu. Alors, il n'y avait pas que Ben Brode, bien sûr, mais il était le visage de cette équipe, et il a déjà quitté Blizzard, il l'a annoncé il y a quelques jours.
Et il est suivi là par Hamilton Chu, qui est le producteur exécutif, qui a annoncé aussi son
Hamilton Chu
départ.
aussi?
Oui,
J'ai pas vu.
c'était tous les deux leur dernier jour en même temps. Donc,
Ah bah j'ai
ils
raté
tous
celle
vivent,
de
je sais
Hamilton
pas.
Chu, oui.
Et tous les deux affichent à peu près la même bio maintenant sur Twitter. Ils disent qu'ils start, ils work on something new. Voilà, je sais
Ouais.
plus exactement, mais bon.
Oui, bah, ils sont en train très certainement de. Ils se sont dit, ça fait quoi, 4 ans ou 5 ans maintenant que Hearthstone est sorti. Ils avaient certainement l'opportunité de choisir d'aller faire autre chose chez Blizzard, mais évidemment, je peux le comprendre aussi. On peut vouloir partir vers de nouveaux horizons et peut-être qu'ils voulaient être leur propre patron. Et donc, ils ont possiblement lancé un nouveau studio. Alors. C'est particulier Blizzard parce que il y a énormément de gens qui ont quitté Blizzard et qui se sont retrouvés dans d'autres équipes ou même à fonder des nouveaux studios. Et généralement, ça se passe pas très bien. Et on a souvent enfin, ils connaissent pas en tout cas le même succès que ce qu'ils ont connu chez Blizzard. Et souvent, on a des gens, des développeurs qui étaient chez d'autres développeurs, dans d'autres sociétés, qui étaient bons ou intéressants, mais pas si incroyables. Et quand ils arrivent chez Blizzard, ils ont des jeux, ils créent des jeux qui ont plus de succès. Et c'est vraiment une boîte particulière, Blizzard, qui justement réussit sans doute par ses budgets et les moyens qu'ils ont de réunir des équipes de talents, de créer des jeux qui ont cette patte particulière. Donc je ne sais pas ce que ça donnera avec Ben Brode, mais très certainement une personne à suivre. Enfin, Ben Brode et Hamilton Chu, qui effectivement travaillaient sur Hearthstone depuis le début aussi. J'irais même jusqu'à dire, et là c'est peut-être un peu de révélation interne, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment Hamilton Chu qui avait poussé en tant que producteur Blizzard à donner leur chance à des plus petites équipes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Blizzard avait trois équipes énormes, même quatre, qui travaillaient sur des jeux monumentaux, et c'est Hamilton Chu qui s'était dit, on va essayer de créer, de lancer des projets avec des équipes plus réduites pour réussir à venir sur le marché plus vite et créer des jeux qui soient moins ambitieux. Et c'est comme ça que l'équipe qui a développé Hearthstone est née. Donc, on a d'un côté la personne qui s'est occupée du développement de Hearthstone, enfin en partie, qui a d'ailleurs commencé, c'était marrant, il livrait des pizzas chez Blizzard dans les années 2000, et il a commencé en tant que testeur parce qu'il cherchait des testeurs, Ben Brode. Donc c'est vraiment, il a commencé en tant que testeur au début des années 2000, et maintenant il est devenu, comme on le sait, directeur du jeu. Donc bref. Quoi qu'il en soit, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire en dehors de chez Blizzard, mais je sais pas ce que ça va donner. Parfois, ça donne quelque chose d'intéressant, parfois moins, mais voilà. Bref, c'était à mentionner parce que il a été une figure importante pour ce jeu, qui a été important pour Blizzard et, je pense, pour une partie de l'industrie. Oui, vas-y.
Non, mais enfin, c'était pour conclure là-dessus, dire que toutes les conférences d'Hearthstone que Ben Brode faisait et toutes les petites vidéos de présentation des extensions et tout ça qu'il y avait avec lui, c'était toujours très sympa. Oui. Donc,
c'était vraiment devenu la figure publique en fait du jeu, hein, qui présentait tout, qui faisait des chansons.
Oui, qui faisait ses morceaux de rap d'ailleurs. Peut-être qu'il va devenir rappeur.
Oh, oui. C'est peut-être ça.
Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous deux de m'avoir accompagné dans les méandres des news de God of War et de l'industrie en général. On va se quitter, mais avant ça, vous pourriez peut-être me dire où on peut vous retrouver. J'imagine que vous pouvez parler de vos comptes Twitter. On commence par Thomas, allez.
Alors moi, mon compte Twitter, tout haut, je sais. Je ne sais toujours pas comment le prononcer.
Le lien sera dans l'émission, pas, dans les notes de l'émission.
T-O-O-T-O-W, voilà. Donc, des jeux vidéo et des chats, voilà. J'ai résumé.
Parfaitement.
Voilà, donc moi, on me retrouve aussi sur Twitter avec mon nouveau Twitter name, comme on dit, qui est @yoant_.
@yoant_, parfait. Merci à toi et merci à Thomas. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. N'oubliez pas, ah oui, et sur Facebook, n'oubliez pas, avant que moi j'oublie, hashtag RDV Dad of the Year, pas dans le tweet d'annonce du podcast, mais dans le tweet spécifique que j'aurais fait sur ce sujet. Donc, surveillez bien, enfin, je dis Twitter ou Facebook, ça marche dans les deux cas. Surveillez bien Twitter et Facebook pour ça. Encore une fois, pas besoin de RT ou Fav ou machin ou toutes ces conneries. Et si vous voulez God of War, achetez-le quand même maintenant, parce qu'il va mettre un petit moment à arriver, ça prendra au moins quelques jours pour... déjà, il faut que j'aille jusqu'à la poste à ma campagne, ça prend pas deux minutes. Et puis, il faudra quelques jours pour qu'il arrive de Finlande. Donc, voilà, ça c'est si vous le voulez, et bien sûr, vous pouvez participer, mais il n'arrivera pas tout de suite. Hashtag RDV Dad of the Year. Voilà pour les promos. N'oubliez pas que sur frenchspin.fr, il y a aussi le rendez-vous tech où on couvre toute l'actu tech que vous pouvez écouter. N'oubliez pas que vous pouvez également recommander cette émission à vos amis, à vos collègues, aux gens qui dont vous pensez qu'ils aiment bien les jeux vidéo, mais qu'ils devraient en savoir plus et qu'ils pourraient être intéressés par nos discussions sur God of War ou sur tous les jeux en général. Vous pouvez aller les voir et leur dire « Hey, t'écoutes le rendez-vous jeu ?» Non ? Ben, il faudrait. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes avec des notes, etc. Et vous pouvez aussi venir dire ce que vous pensez de God of War sans spoiler, attention, sur le blog de l'émission, donc sur frenchspin.fr. Vous pouvez faire ça et nous dire ce que vous en pensez aussi, si vous pensez qu'il est effectivement Game of the Year, histoire impeccable, équilibre parfait, ou alors si vous aimez tout simplement pas ce jeu parce qu'il est pourri. J'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi vous, ça doit être le cas. Tous les jeux ne fonctionnent pas pour tout le monde. Bref, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao à tous.
Ciao. Salut.